franceinter.fr.
Bonjour Gérard Chalian.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue spécialiste des conflits armés. Vous rentrez du Kurdistan irakien après un séjour de 4 mois. Vous nous direz pour quelles raisons, sans doute tout à l'heure. On avait envie d'examiner avec vous les conséquences et implications, dernières implications de ce conflit syrien avec ces Kurdes qui avancent vers l'autonomie, ces Russes et ces Turcs qui se font la guerre par procuration, ces Américains impuissants et désormais blâmés pour leur impuissance, y compris par leurs alliés européens. Est-ce que vous diriez, comme l'a fait le Premier ministre russe Medvedev il y a quelques jours, que le monde était entré dans une nouvelle guerre froide? Est-ce que c'est une nouvelle phase, un nouvel épisode qui s'ouvre aujourd'hui?
Moi, je trouve que la guerre froide a été terminée en 1991 et que par la suite, on a cessé de contenir l'URSS pour se livrer à un refoulement systématique de l'ex-URSS aux frontières de la Russie. C'est ça que je constate, moi, toute idéologie mise à part. C'est-à-dire que, de façon non affirmée, les États-Unis ont fait tout ce qu'il fallait pour repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie, d'où, par exemple, ce qui s'est passé en Ukraine. C'est-à-dire que le perdant dans cette affaire, c'est M. Vladimir Poutine.
Le perdant
Le perdant en Ukraine, c'est lui. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait une union eurasiatique, dont l'Ukraine aurait été l'un des joyaux. Et ça, pour lui, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il vient de perdre? Il vient de perdre, en définitive, 45 millions de Slaves russophones qui ne feront plus jamais partie de l'ère de domination directe de la Russie. Voilà, ça c'est la réalité. Et au lieu de ça, bon, on s'échine à le diaboliser alors que c'est un perdant. Alors, il essaye de se rattraper en Syrie.
Alors, il essaye de se rattraper de façon assez spectaculaire. On a eu cette phrase, cette semaine, lâchée par un ministre qui s'en va et qui, avant d'abandonner le Quai d'Orsay pour le Conseil constitutionnel, lâche une sorte de tapis de bombe contre la Russie et l'Iran, complices des horreurs du régime syrien, a-t-il dit, contre les Américains lâches et ambigus. C'est Laurent Fabius, hein, c'est bien de lui qu'il s'agit, qui explique que le refus de Barack Obama à l'été 2013 de frapper Bachar el-Assad, qui venait d'utiliser des armes chimiques, a été un tournant. Quand on écrira l'histoire, dit Fabius, on s'apercevra que c'est un tournant pas seulement dans la crise du Moyen-Orient, mais aussi pour l'Ukraine, la Crimée et pour le monde. Que pensez-vous de cette analyse et de ce regard sur l'histoire toute récente, Gérard Chalian?
Oui, c'est toujours facile de dire que si on avait fait ceci, il ne se serait pas produit cela. Je veux dire, personne n'est certain des conséquences. Par exemple, en 2013, nous avions déjà l'expérience de l'échec complet, du désastre complet de la Libye. Bon, en Libye, on a eu un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies pour protéger une population. En fait, on a liquidé une dictature. Après ça, il y a eu les dégâts collatéraux que la France est en train d'essayer de colmater sur l'ensemble du Sahel et du Sahara. On n'en a pas fini. À l'intérieur de la Libye, c'est franchement le désastre. Et il y a rien qui apparaisse pour pouvoir dire qu'il y a une solution. On n'a rien prévu pour l'après. Alors, est-ce que M. Obama, auquel maintenant on reproche tout, alors qu'il en est à la dernière année, et comme tous les présidents américains, la dernière année, on ne peut pas faire grand-chose, on est déjà paralysé, il a déjà beaucoup à faire à l'intérieur. Alors, on lui reproche ça, et en fait, dans la pratique, il avait déjà sur le dos l'échec de l'Irak, qui est un désastre. Il avait l'échec que nous allons constater très bientôt de l'Afghanistan, parce que si les Américains n'y laissent pas 5 à 10 000 hommes, ben, Kaboul va tomber. Et il a l'échec de la Libye. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant de dire, bon, ben voilà, on se débarrasse de Bachar? C'est très bien, on se débarrasse de Bachar. Tout le monde, maintenant, est contre Bachar. D'accord, je comprends, c'est un dictateur. Et après, on fait quoi? Est-ce qu'on est capable d'imposer une solution? La réponse, c'est franchement, non. Non. La chute de Bachar, ça signifie immédiatement, à partir de 2013 déjà, la liquidation physique des Alaouites, parce qu'ils ont brimé les autres pendant 30 ans. C'est la liquidation des minorités chrétiennes, parce qu'ils sont rejetés. Et c'est la lutte entre les islamistes. Est-ce que c'est Daesh qui va imposer sa loi ou est-ce que c'est le Jabhat al-Nosra qui est l'élimination d'Al-Qaïda? Voilà, c'est ça le bordel qu'on va avoir. C'est pas 200 000 types qu'on va perdre, c'est 500 000. Alors je veux dire, c'est toujours facile de dire...
200 000,
voilà,
c'est le nombre de victimes actuelles de 160 000, sans doute, depuis le début du conflit syrien.
C'est une estimation de, comment dirais-je, de l'Observatoire des droits de l'homme, qui d'ailleurs est entre les mains de l'opposition. Donc moi, les chiffres, je m'en méfie, là comme ailleurs.
Il y a tout de même la réalité des massacres.
Bien sûr. Mais les massacres, on en aura encore davantage si ce type tombe. Et c'est pas pour ça que je voudrais pas qu'il ne disparaisse pas un jour. Mais je veux dire, dans les circonstances actuelles, c'est très facile de dire, voilà, on s'en débarrasse. Bon, et après, on fait quoi? Nous ne sommes pas en mesure, ni nous Européens, ni le président Obama, qui en est à ses derniers mois, d'imposer une solution sur le long terme. C'est-à-dire parce qu'il faut s'engager sur plusieurs années.
Mais ce sont les Russes de Poutine qui aujourd'hui imposent une solution militaire, Gérard Chalian.
Oui, ils ont renversé la vapeur et ils confortent le régime, c'est indiscutable. Et puis ils appuient effectivement les Kurdes de Syrie, qui sont les seuls combattants sérieux, à l'heure actuelle, contre les islamistes, que ce soit ce qu'on appelle le Daesh, ou que ce soit le Jabhat al-Nusra, etc. Bon, ça indispose beaucoup les Turcs, qui, eux, de leur côté, ont décidé que tout ce qu'il y avait comme Kurdes armés, que ce soit le PKK à l'intérieur de la Turquie, ou que ce soit les Kurdes de Syrie, ils n'en veulent pas. Voilà. Donc on est dans un imbroglio, où on a, nous, Européens, nous, Occidentaux, des alliés plus qu'ambigus. L'Arabie Saoudite poursuit son objectif anti-iranien, anti-chiite. La Turquie poursuit son objectif de dominer la région, parce que c'est une puissance importante.
Avec la tentation d'intervenir directement au sol, vous revenez de la région, c'est une hypothèse qui vous paraît, sérieuse, crédible?
Elle me paraît peu crédible, moi. Je pense qu'ils ne feront pas l'intervention au sol. Je pense qu'on exagère quand on dit qu'il va y avoir un conflit entre la Turquie et la Russie. Non. Il y a beaucoup de gesticulations. Les Turcs ont dit, on voudrait une intervention internationale, ce qui veut dire on va pas la faire tout seul. Et qui va aller avec eux, à part les Saoudiens qui disent, nous sommes favorables. Enfin, on les a vus au Yémen, ils sont pas fameux du point de vue militaire. Donc, ils vont pas faire grand-chose. Voilà, on se trouve dans un état de tension extrême. Il faut pas non plus s'imaginer qu'on est au bord de l'explosion. Je veux dire, il y a un côté vendeur d'angoisse qui est caractéristique des médias. Monsieur Guetta sera peut-être d'accord.
Je ne sais pas si on vend de l'angoisse, on peut quand même être alarmé, inquiet, ému, inquiet, et même davantage par ces civils, ces écoles, ces hôpitaux bombardés ces derniers jours par l'aviation russe, des dizaines de victimes supplémentaires.
Je suis totalement d'accord avec vous et personne ne peut
la population
être contre d'Alep, votre point de vue.
Deuxième ville de Syrie.
Oui. Personne ne peut être contre votre point de vue. Dans toutes les guerres, ce qu'on peut déplorer, c'est le civil. Et aujourd'hui, tout le monde sait que dans les guerres contemporaines, c'est le civil qui trinque plus que le militaire. Si vous voulez être en fin de compte vivant, vous avez intérêt à prendre les armes. Ça vaut mieux que d'être civil.
Gérard Chalian, géopolitologue, on vous retrouve dans quelques minutes et puis on accueillera aussi Michel Elchaninov, qui est rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine, mais spécialiste de la pensée russe et tout particulièrement de celle de Vladimir Poutine. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Dans la tête de Vladimir Poutine ». On essaiera tout à l'heure de comprendre quels sont les ressorts de l'intervention et de la politique russe qui est menée actuellement, notamment au Proche-Orient.